Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient, comme tous les jours, vous le savez. RFI vous donne la parole et dans 30 minutes, ce sera la libre antenne. Le vendredi, vous connaissez le principe, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale. Donc, où que vous soyez, en France, à l'étranger, appelez-nous, interpellez-nous, venez lancer le débat en direct sur RFI. C'est l'occasion, vous le savez, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale, des sujets dont on n'a pas forcément parlé cette semaine dans l'émission. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions à la rédaction d'RFI, c'est votre rendez-vous quotidien. Vous souhaitez mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, et bien surtout n'hésitez pas, appelez-nous, posez-nous toutes vos questions et évidemment chaque matin on essaie d'y répondre au plus grand nombre avec nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. La première question nous vient de Lubumbashi à l'est de la République démocratique du Congo. Gustave est avec nous. Alors comme à chaque fois avec Lubumbashi, il y a ce traditionnel décalage au téléphone. Bonjour Gustave.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous écouter dans l'Est de la RDC. Vous avez des questions sur la colère d'Israël après les propos du PDG d'Orange, le groupe de téléphonie français.
C'est clair, oui. J'ai appris la déclaration de Stéphane Richard de l'équipe Orange d'Israël. Alors, je voudrais savoir quelle est la réaction du gouvernement français et quel impact cette déclaration a-t-elle sur les relations diplomatiques entre la France et l'Israël.
Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Stéphane Richard a provoqué une tempête diplomatique en annonçant vouloir rompre les liens entre Orange et la société israélienne Partner. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'RFI en Israël. Polémique que va d'ailleurs essayer d'éteindre aujourd'hui même le président d'Orange, puisqu'il sera reçu dans la journée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. D'abord peut-être, juste pour replanter le décor, Muriel Paradon, expliquez-nous pourquoi les propos de Stéphane Richard ont provoqué de telles réactions en Israël.
Oui, vous savez, Orange est soupçonné d'avoir annoncé son retrait d'Israël, même si le PDG est revenu sur cette annonce. Il dit qu'il va rester maintenant, sous pression des mouvements de boycott. Les mouvements qu'on appelle BDS, boycott des investissements, sanctions, qui poussent les citoyens, les gouvernements, les entreprises à rompre leurs liens avec Israël pour condamner l'occupation des territoires palestiniens et surtout la poursuite de la colonisation. Il se trouve qu'Orange est présent à travers son partenaire israélien dans les colonies et les mouvements de boycott estime que travailler dans les colonies, c'est une façon de les maintenir. Alors, Israël a très mal pris cette annonce d'Orange car beaucoup de décisions de boycott avaient été prises ces derniers temps. Donc, son annonce est tombée au pire moment, pourrait-on dire. Alors, quelle est maintenant la réaction du gouvernement français? Parce qu'il faut rappeler que l'État français détient des parts dans Orange et est actionnaire de manière minoritaire.
25% du capital.
Mais tout de même. Donc, l'État français a été sommé de s'expliquer par les Israéliens et le gouvernement a publié un communiqué assez tardivement, 24 heures après la polémique. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, s'est expliqué. Il a dit, je vais vous le citer, « S'il appartient au président du groupe Orange de définir la stratégie commerciale de son entreprise, la France est fermement opposée au boycott d'Israël. » Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Laurent Fabius rappelle que la France et l'Union européenne ont par ailleurs une position constante et connue sur la colonisation. Ça veut dire que la France est opposée à la colonisation. Elle le rappelle donc dans son communiqué. Et rappelons aussi que la colonisation est illégale au niveau international et donc la France la condamne fermement. Laurent Fabius l'a dit encore hier, c'est inacceptable. Donc, non au boycott, mais tout de même, il faut rappeler que la colonisation est illégale en Israël et qu'il faut la condamner. La France l'a rappelé.
Ouais, et l'Élysée joue l'apaisement après la colère de Benjamin Netanyahou, qui n'a pas mâché ses mots à l'égard du PDG d'Orange. Quelles conséquences cette affaire peut-elle avoir sur les relations franco-israéliennes ?
Bien, cette affaire ne fait qu'alourdir le climat déjà assez lourd entre la France et Israël. Pourquoi ? Parce que la France prépare actuellement une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui ne plaît pas du tout, mais pas du tout aux Israéliens. Il s'agit de fixer un cadre à la résolution du conflit israélo-palestinien. Et le texte propose notamment de fixer un délai maximal de 18 mois pour atteindre, à travers des négociations, une solution au Proche-Orient, juste, globale et durable, dit cette résolution. Et au-delà de ce délai, s'il n'y avait pas d'accord, eh bien la France reconnaîtrait l'État de Palestine. Évidemment, ça ne plaît pas aux Israéliens. Dans l'esprit des Français, ce projet de résolution servirait à faire bouger les choses, pousser Israéliens et Palestiniens à reprendre les négociations de paix. Mais pour les Israéliens, c'est une ingérence inacceptable. Ils estiment que c'est aux deux parties de décider s'ils veulent reprendre les négociations et ce qu'il doit y avoir dedans. Sachez en tout cas que Laurent Fabius viendra défendre son projet de résolution dans une dizaine de jours à Jérusalem et Ramallah. Mais on imagine que l'ambiance sera assez tendue avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Effectivement. Merci beaucoup Muriel Paradon. Bonne journée en Israël. Merci à Gustave qui nous écoute attentivement tous les jours. Un fan d'RFI. Il est à Lubumbashi dans l'est de la République démocratique du Congo. Vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Conakry et vous avez des questions sur le Hamas, le mouvement islamiste palestinien.
Oui Juan. J'ai appris que l'Égypte a annulé l'inscription du Hamas comme un groupe terroriste. Mmh. Alors ma question est la suivante. Pourquoi l'Égypte a-t-elle classé le Hamas comme une organisation terroriste? Comment expliquer l'annulation du jugement? Quelles sont les conséquences de ce verdict sur les relations entre l'Égypte et le Hamas?
C'est vrai que le Hamas n'est plus sur la liste égyptienne des organisations terroristes. C'est une cour d'appel qui a annulé la semaine dernière une décision qui avait été prise en première instance. Alexandre Bouchanti, le correspondant d'RFI au Caire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Alors en février dernier, un tribunal égyptien avait jugé que le mouvement islamiste palestinien était une organisation terroriste. Alors pour comprendre cette décision de justice en février dernier, en fait il faut remonter un peu plus loin, il faut remonter au 24 octobre.
Oui, tout à fait, puisque le 24 octobre, il y avait eu une trentaine de militaires égyptiens qui ont été tués dans un attentat au camion piégé dans le nord du Sinaï, près de Rafah, à la frontière avec Gaza, qui est contrôlée par le mouvement islamiste Hamas. Alors, ce dernier avait été accusé par les médias qui citaient des sources sécuritaires d'avoir prêté main forte aux terroristes de l'organisation Ansar Beit al-Maqdis, qui est devenue une branche du groupe État islamique, pour réaliser cet attentat. Alors, des avocats anti-islamistes ont déposé une plainte devant le tribunal des référés qui demandait que le Hamas soit classé sur la liste des organisations terroristes. Et donc, le 28 février, le tribunal leur a donné gain de cause et a ordonné aux autorités de classer le Hamas comme organisation terroriste, mais aussi de fermer ses bureaux et de saisir ses avoirs. Alors, légalement, le gouvernement, qui n'avait pas demandé de classer le Hamas comme organisation terroriste, se trouve obligé d'appliquer le jugement.
Donc obligé d'interdire les activités du Hamas. Et là, coup de théâtre, Alexandre Bouchanti, puisque le gouvernement a fait appel contre ce jugement qui avait été prononcé en février dernier.
Oui, tout à fait. Le gouvernement a fait appel le 6 juin, il y a eu une nouvelle cour qui a annulé la décision de justice qui avait été prise par le tribunal des référés qui considérait le Hamas comme organisation terroriste. Et cette cour d'appel a estimé en fait que le tribunal des référés s'était prononcé dans une affaire qui ne relevait pas de ses compétences. Et donc le jugement et toutes ses conséquences ont été considérées comme nulles et non avenues. Donc le Hamas n'est plus une organisation terroriste.
Alors j'imagine que le Hamas a salué cette nouvelle décision de la justice égyptienne. Abdoulaye nous demandait quelles sont les conséquences de ce nouveau verdict sur les relations entre le mouvement palestinien et l'Égypte, des relations qui se sont d'ailleurs extrêmement dégradées depuis la chute de Mohamed Morsi.
Oui, tout à fait. La chute de Mohamed Morsi en juillet 2013. Rappelons que Mohamed Morsi est un président frère musulman et que le Hamas est un mouvement qui est issu de la confrérie des frères musulmans. Et donc, le premier jugement avait placé les relations entre l'Égypte et le Hamas au bord de la rupture. Et aujourd'hui, son annulation détend l'atmosphère. Mais alors, il faut préciser qu'entre-temps, il y avait eu des contacts officieux entre les autorités égyptiennes et le Hamas pour essayer de décrisper les relations extrêmement tendues. Le Hamas a demandé à l'Égypte d'entrouvrir le terminal de Rafah, qui est en fait la seule frontière terrestre à ne pas être contrôlée par Israël, et ne plus considérer le mouvement comme terroriste. De leur côté, les autorités égyptiennes, elles voulaient que le Hamas contrôle mieux les entrées de tunnels qui partent de Gaza vers l'Égypte et qui, selon des sources sécuritaires, sont utilisées par les djihadistes du Sinaï. L'Égypte voulait aussi que le Hamas n'offre plus refuge à certains dirigeants frères musulmans. Alors l'accord semble avoir porté ses fruits puisque le Hamas n'est plus une organisation terroriste et la frontière est entrouverte. Et puis, dans le Sinaï, il n'y a plus eu d'attentats majeurs et certains dirigeants frères musulmans que l'on disait réfugiés à Gaza ont été arrêtés, comme par hasard, au Caire.
Voilà, merci beaucoup Alexandre Bouchanti. Abdoulaye, on a répondu à vos questions?
Oui, merci à votre interlocuteur.
À notre correspondant au Caire, Alexandre Bouchanti. À bientôt, Abdoulaye. Bonne journée à Conakry. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, la libre antenne, vous commenterez l'actualité de votre choix. Beaucoup d'appels encore ce matin sur la situation au Burundi. Beaucoup de lycéens et de parents d'élèves, certains en colère et d'autres pas, après la décision du gouvernement du Congo-Brazzaville d'annuler des épreuves du baccalauréat. Le voyage polémique de Manuel Valls à Berlin suscite là aussi des réactions. Donc nous vous donnerons la parole, ce sera dans 20 minutes maintenant. Anna Piekarek du Service France me rejoint à l'instant. Bonjour Anna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vais me faire le porte-parole de Pierre à Kinshasa. Le réseau téléphone ne passe pas du tout. Pierre qui revient sur l'affaire Vincent Lambert, cet homme tétraplégique depuis un accident de la route en 2008. Et la semaine dernière, la justice européenne a autorisé l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. La décision a quand même été prise par la grande chambre, hein, c'est-à-dire l'instance suprême de la Cour européenne des droits de l'homme. Aucun recours n'est donc possible, mais malgré tout, les parents de Vincent Lambert ont décidé de poursuivre leur combat pour maintenir en vie leur fils. Et Pierre nous demandait, mais comment la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle motivé son arrêt ? Et il voulait savoir ce que disait exactement la loi française concernant la fin de vie. D'abord, expliquez-nous pourquoi la Cour a-t-elle décidé une telle annonce ?
La Cour européenne des droits de l'homme devait se prononcer sur la décision du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, qui, l'année dernière, a autorisé les médecins à interrompre les traitements qui maintiennent Vincent Lambert en vie depuis bientôt 7 ans. Le 5 juin, les juges de la Grande Chambre de la Cour ont approuvé cette décision. Ils ont estimé, par 12 voix pour et 5 contre, que dans le cas précis de Vincent Lambert, l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle ne violait pas la Convention européenne des droits de l'homme. Ce texte garantit le droit à la vie, certes, mais il reconnaît également le droit de chacun à l'autonomie, y compris lorsqu'il s'agit de décider des conditions de sa propre mort. Le principal argument de la Cour européenne concernait donc la liberté et la volonté de la personne. Et celle de Vincent Lambert était claire. Il n'a pas laissé de directive anticipée par écrit, mais avant de devenir tétraplégique à la suite d'un accident de la route, il avait souvent dit à son épouse qu'il n'accepterait jamais de vivre dans une situation de dépendance.
Ouais, et la Cour européenne, comme le Conseil d'État, a donc jugé ces témoignages dignes de foi. Elle a salué d'ailleurs au passage l'actuelle législation française, hein, qui encadre les décisions de fin de vie. Que dit la loi en France ?
La loi française en la matière, dite loi Leonetti, qui a été appliquée dans le dossier de Vincent Lambert, interdit tout acharnement thérapeutique. Elle permet aux médecins de stopper les traitements des patients en fin de vie ou atteints d'une maladie incurable, à condition bien évidemment que ces patients le souhaitent et que les traitements en question soient inutiles, disproportionnés ou n'aient d'autre but que de prolonger artificiellement la vie. Avant de prendre la décision finale, le médecin a l'obligation de consulter au moins un de ses confrères et le personnel soignant. Il doit aussi recueillir les avis de la famille du patient. Ce texte date de 2005 et est en voie d'être réformé et si le nouveau projet de loi est adopté, les droits des malades seront renforcés. Ainsi, toute personne souffrant d'une pathologie incurable et dont les jours sont comptés pourra demander à être endormie à l'aide de sédatifs puissants pour mourir ensuite dans son sommeil et le médecin ne pourra pas s'y opposer.
Ouais, en quelques mots, Anna, Pierre nous demandait quels sont les recours possibles aujourd'hui pour les parents de Vincent.
Voilà, selon les parents, toutes les voies ne sont pas encore épuisées. Ils considèrent que la situation de leur fils a changé depuis un an. Le médecin responsable de la décision d'arrêter les traitements de survie n'est plus en poste à l'hôpital de Reims. Et il est le seul, d'après eux, à avoir le droit de mener le processus de fin de vie à son terme. Ils assurent aussi que leur fils est capable de déglutir et qu'il pourrait bientôt être nourri par la bouche. Ils exigent donc une nouvelle expertise médicale. Si cette nouvelle procédure était effectivement déclenchée et qu'elle aboutissait aux mêmes conclusions que les précédentes, les parents pourraient saisir de nouveau un tribunal administratif français. Par ailleurs, des proches opposés à la mort de Vincent Lambert ont diffusé mercredi une vidéo le montrant sur son lit d'hôpital. Faisant partie du combat des parents, ce film avait pour objectif d'émouvoir le grand public et de prouver que Vincent Lambert communiquer avec son entourage. Selon les médecins, ces images ne contredisent pourtant en rien le diagnostic rendu par plusieurs experts. Vincent Lambert est dans un état végétatif grave et irréversible.
Voilà, bataille juridique et médiatique qui n'est pas prête de se terminer autour de Vincent Lambert. Merci beaucoup Anna Pécarec et j'espère que Pierre a pu écouter toutes vos réponses et vos analyses. À l'instant, Alejandro Valente s'installe dans ce studio. Bonjour Alexandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Un peu essoufflé peut-être, non? Non, tout va bien.
Pas du tout.
Très bien. Non, vous avez couru dans les couloirs pour venir répondre à Daniel, qui est à Ouagadougou. Bonjour Daniel.
Bonjour Juan.
On vous écoute avec
en premier lieu remercier.
Allez-y.
Je voudrais en premier lieu remercier RFI, la Radio Mondiale, pour l'information portée au monde entier.
Bah, merci de votre fidélité.
Lors de la finale de la Coupe du Roi d'Espagne, Neymar a exécuté un dribble qu'on a appelé roulette. Cela n'a pas plu à ses coéquipiers, aux adversaires aussi. Je voudrais savoir pourquoi en Espagne on n'apprécie pas ce geste, pourtant d'une grande technicité.
Alors, la roulette de Neymar qui fait polémique en Espagne. D'abord, expliquez-nous ce que c'est qu'une roulette dans le football.
Ouais, disons que Neymar était face à un adversaire, donc il essayait de le dribbler. Et finalement, il a eu l'idée de prendre le ballon avec les deux talons, donc par derrière, et essayer de l'envoyer au-dessus du joueur adverse.
C'est une prouesse. Il n'a pas réussi, mais c'est une prouesse.
Ça n'a pas marché, mais Neymar aime beaucoup ce genre de geste. Là, on l'a vu, par exemple, il est à la Copa América au Chili, il s'entraîne. Et hier, j'ai vu qu'il s'entraîner à envoyer des ballons de derrière le but pour les faire rebondir et les faire rentrer dans le but. Donc il fallait évidemment faire un... Donc il a fait ça, c'était pour moi un beau geste technique, une belle tentative et c'était en plus utile, c'était pas vraiment un geste destiné à humilier l'adversaire.
Alors justement, pourquoi l'Athletic Bilbao crie à l'humiliation? Pourquoi les joueurs de Bilbao sont furieux?
Bah, ils sont furieux parce qu'ils ont estimé que Neymar les chambrait. En fait, Barcelone menait au score 3-1, le match était gagné, c'était la fin du match. Ils ont estimé qu'en faisant ces gestes, il a voulu les humilier, les provoquer, montrer qu'il était beaucoup plus fort qu'eux. Et donc, du coup, ils étaient furieux. Effectivement, les défenseurs en question envoyaient bouler Neymar, les autres ont couru derrière. Il a fallu que Xavi vienne protéger son coéquipier, car tous les joueurs étaient furieux. Même ceux qui étaient assis sur le banc de touche sont partis comme une fusée pour aller chercher Neymar.
Et ce qui est extraordinaire, tout de même, Alejandro, c'est que l'entraîneur du Barça n'a pas pris la défense de Neymar.
Luis Enrique a dit qu'ils avaient raison. Alors, c'est un peu étonnant, effectivement. Mais ça montre un peu la différence de culture. Moi, j'ai vu souvent avec des joueurs sud-américains ici en France que souvent, les joueurs français, parfois, s'énervaient. Ils pensaient qu'on les chambrait. les joueurs sud-américains aiment beaucoup faire des petits gestes, et surtout quand il n'y a pas trop de risques, parce que le score est acquis, ils aiment bien essayer de tenter des choses difficiles, et le public en général aime ça. Mais c'est visiblement une autre façon de percevoir les choses en Europe, et notamment en Espagne. Donc le monde semblait d'accord, et donc on disait Messi ne ferait jamais ça. Je pense qu'ils ont tort. Mais
bon, en tout cas, Neymar est un génie incompris, on va dire les choses comme ça.
Un génie incompris, en tout cas, c'est un génie qui n'a pas été compris sur ce coup-là.
Effectivement. Merci Alejandro Valente, chef du service des sports d'RFI. À suivre, le journal, et dans 10 minutes, la Libre Antenne.